Bonjour et bienvenue, ici Kelly Méran, vous êtes sur le podcast Insensé. Insensé, c'est le podcast en quête de sens, j'y interview de belles âmes qui alignent leurs valeurs, leurs rêves et leurs croyances avec leur projet de vie, et ça fait sens. Insensé, c'est aussi un podcast indépendant qui a besoin de vous. Pour le faire vivre, je vous invite à ajouter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. J'en profite pour remercier My Funky Valentine qui a écrit le commentaire suivant. J'ai écouté les 4 premiers épisodes aussi riches qu'éclectiques. La malice, la curiosité, la gentillesse de Kelly Méran donnent son sens à la bienveillance. Les parcours de ses invités sont extraordinairement inspirants. Ces questions permettent de les rendre humains, vulnérables, accessibles. Ça donne envie de se bouger. Merci infiniment. Ce commentaire me touche énormément.
Voici comment l'histoire a commencé.
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est,
Vous bossez.
What's your purpose? What's your cause? What's your belief?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bosh!
Réfléchissez.
La vie a-t-elle un sens?
Qui suis-je?
Il est complètement fou, ce mec!
Insensé, c'est le podcast en quête de sens. J'y interview de belles âmes qui alignent leurs valeurs, leurs rêves et leurs croyances avec leur projet de vie. Et ça fait sens. Aujourd'hui, je reçois Adrien Garcia. Adrien est le fondateur de la marque de prêt-à-porter Réunis et du podcast Entreprendre dans la mode. Si la mode est son terrain de jeu aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, Adrien était dans la food, il a fait ses études, les premières du nom, dans l'hôtellerie et la restauration. Il est passé par Ducasse et prêt-à-manger. Mais il avait un rêve. Devenir designer et créer sa propre marque de vêtements. Il est donc retourné sur les bancs de l'école au Studio Berceau à Paris à 29 ans. Il a suivi une formation au métier de styliste qui se passe en 2 ans. On peut citer d'anciens élèves du Studio Berceau comme Isabelle Marant, Charlotte Chenet ou Natacha Ramsey. Il a fait ses armes ensuite dans 2 grandes maisons, Louis Vuitton et Balenciaga. Mais comment faire quand on a 31 ans et qu'on est inconnu? Eh bien, en 2017, il lance Entreprendre dans la mode, un podcast dans lequel il interviewe des personnalités influentes du secteur. Il décortique leur parcours et leur stratégie pour innover et se développer. Il n'a pas perdu son rêve de vue, car après plus de 120 épisodes, il a désacralisé un bout de la mode et lance Réunis, qui porte des valeurs fortes. Sustainability, artisanat et inspiration à un retour à la naturalité et aux choses simples. Et ça, ça me parle. Adrien est entrepreneur de sa vie. Rien n'est arrivé par hasard. Ce qui m'a agréablement surprise dans la démarche d'Adrien est son souhait de faire les choses bien. Il est humble, curieux, il aime écouter, apprendre. Son histoire au parcours organique et atypique a répondu avec brio à la problématique « Comment on se lance dans la mode à 31 ans quand on est inconnu ?» Je suis heureuse de recevoir Adrien en espérant que cette interview vous partage son parcours, vous permette de comprendre ses mécanismes pour rester aligné et débroussailler son chemin jour après jour. Je vous laisse découvrir le personnage.
Salut.
Ouais.
Je t'entends très bien, on est au top.
Ça me fait bizarre parce que d'habitude, moi, c'est moi qui ai les retours et j'entends pas ma voix.
Adrien, bienvenue sur le podcast Insensé. Et je suis ravie d'annoncer que tu as explosé les compteurs sur ta campagne Ulule de Réunis avec le gros pull d'hiver. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça?
Je me sens soulagé, je me sens hyper soulagé. T'imagines bien quand tu... Je crois qu'on s'était vu juste avant de lancer la campagne. Je t'annonçais, je ne sais plus quel chiffre je t'annonçais d'ailleurs, mais j'étais hyper stressé parce que tu lances une campagne de crowdfunding. Bah, t'as peur que ce soit un échec, ça fait quand même quelques mois que tu bosses dessus, tu te mets à nu, encore une fois, et puis moi j'avais développé une petite audience avec mon podcast Entreprendre dans la mode, donc quand tu lances quelque chose, tu te dis, là il n'y a pas que ton père et ta mère qui te regardent, il y a d'autres gens qui te regardent, puis des gens du métier, des gens de l'industrie, donc c'était hyper, hyper stressant, hyper flippant, et le fait qu'on ait explosé les compteurs comme tu le dis, j'aurais préféré les exploser encore plus, mais plus 750%, je trouve que c'est quand même pas mal, mine de rien. Et puis c'est un chiffre rond, donc c'est chouette. Mais je suis hyper soulagé. Je crois que c'est vraiment le sujet. Je suis soulagé, mais il faut pas lâcher la pression parce que maintenant il faut livrer, il faut produire, il faut livrer les pulls.
Donc on
ça aussi, c'est un nouveau sujet et c'est un nouveau métier pour moi aussi. Donc c'est soulagé, mais quand même un petit peu tendu en même temps, tu vois.
Ok. Le gros est passé. Lancer une marque dans la mode, c'est pas simple.
Non.
Et depuis le premier jour, vous avez choisi avec Réunis de miser sur beaucoup de pédagogie, beaucoup de transparence, ce que j'apprécie particulièrement. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus ?
Ouais, alors avec Réunis, alors déjà, lancer une marque de mode en 2019 ou en 2020, c'est hyper compliqué parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la mode, elle est saturée, on en a plein de produits, il y a trop de choses en fait, on a trop de tout aujourd'hui. Et donc, c'est même une vraie question, est-ce que lancer une marque de mode en 2019-2020, ça a du sens quoi ? Moi, j'ai toujours rêvé de lancer une marque de mode, tu l'expliquais dans ton texte d'introduction. C'est un truc que j'ai dans les tripes et il faut absolument que je le fasse. Mais il faut que je le fasse avec beaucoup de sens. Et pour moi, le problème de l'industrie de la mode aujourd'hui, c'est la surconsommation, la surproduction. Et une façon de lutter contre ça, c'est de revenir à une production raisonnée qui a du sens. Et surtout, ça passe par la pédagogie. Et pour moi, la pédagogie, elle se fait en étant hyper transparent et en expliquant comment on fait une marque de mode et comment on produit un vêtement, comment on le réfléchit, comment on le produit, comment on le distribue. Et c'est pour ça que pour moi, la transparence dans Réunis, en tout cas, c'était hyper important.
Réunis, comment ça fonctionne concrètement ? Chaque création démarre par un questionnaire à sa communauté. Ils interrogent pour comprendre ce qui ferait la pièce parfaite. Ils ont commencé avec un gros pull d'hiver. L'objectif, créer la pièce unique, intemporelle, élégante, le genre de pull qu'on se passe de génération en génération parce qu'il tient le coup. De la belle sape avec du style et de la qualité. Et tout ça à prix abordable, respectueuse des animaux et de l'environnement. Uniquement en précommande, ce qui est produit est déjà vendu. Smart.
Et vous donnez la totale visibilité sur toutes les étapes du process, ouais. Depuis le choix des matières, des fabricants, des partenaires. Cette transparence et cette pédagogie sur vos avancements, vous n'avez pas peur à un moment donné que ce soit capturé, que ce soit utilisé par d'autres acteurs de l'industrie, du marché ?
Ouais, mais je crois que ça, c'est vraiment une façon de penser un peu old school. Je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est l'exécution, quoi. C'est l'image de marque, mais c'est surtout l'exécution. T'as beau avoir toutes les informations. Aujourd'hui, les informations, elles sont partout, quoi. Alors bien sûr que si on prémâche le travail en donnant notre fournisseur, par exemple notre tricoteur Finatex, etc., en disant ils sont super réactifs, etc., ils ont fait le taf pour nous, ils sont sérieux, ils font les choses bien, tu prémâches le travail à de potentiels concurrents, mais en même temps, je préfère que les gens bossent avec Finatex, que Finatex soit content, je préfère que ça soit des gens qui fassent les choses bien, qui bossent bien et qui soient contents et qui fassent du chiffre d'affaires, tu vois. Et Finatex, tu vois, par exemple, je les ai présentés à plein de gens sur le marché. Je les ai présentés à Bash, je les ai présentés à Loom, je les ai présentés à Asphalt, etc. Et pour moi, c'est pas là où on est concurrent, en fait. Pour moi, c'est pas un sujet, le sourcing. Ouais, je sais pas si je réponds à ta question, mais grosso modo, ça me fait pas trop peur parce que le plus important, c'est l'exécution. C'est plutôt ta marque, ton produit, ta façon de communiquer auprès de tes consommateurs et auprès de tes clients. Et voilà.
Je suis plutôt d'accord. Plutôt d'accord. C'est juste que c'est cette un peu image de la mode, de cette première barrière à l'entrée, qui est de savoir avec qui travailler, comment trouver les prestats qui vont nous accompagner tout le long.
Mais la réalité, c'est hyper dur. Hein. Juste pour te dire, nous, on s'est cassé les dents sur des fournisseurs. Tu vois, au début, on était, on voulait sourcer. Enfin, on s'est fait conseiller. Et on nous avait dit, on connaît des gens en Turquie, des tricoteurs qui sont hyper cool, etc. Donc on a été sur place. On était un peu échaudés au début. On nous disait, putain, la Turquie, ça fait loin quand même. C'est un peu embêtant. Mais la personne qui nous a conseillé était tellement quelqu'un de confiance. On s'est dit, bon, on va aller voir quand même. On va aller rencontrer ces gens-là. Et puis on va essayer d'enlever les clichés qu'on a en tête sur la Turquie. Entre-temps, il s'est passé des trucs avec la Syrie, etc. C'était un peu craignos, et donc je me dis heureusement qu'on n'a pas été là-bas. Mais en tout cas, on s'est cassé les dents parce qu'on a rencontré des gens qui comprenaient pas du tout ce qu'on voulait faire, qui nous proposaient des matières full polyester, qui nous annonçaient des prix complètement débiles, etc. Et donc on s'est cassé les dents. Donc c'est vrai que prémâcher le travail en donnant nos fournisseurs, Franchement, on fait une fleur à beaucoup de gens, quoi.
Je trouve ça beau, moi. On va faire un petit retour chronologique. Mmh. Avant d'être dans la mode, tu es dans l'univers de la restauration. Et je me demandais si, dans cet univers, l'hôtellerie de la restauration, il y avait des choses qui te servaient aujourd'hui dans l'univers de la mode, pour casser un peu les codes.
Ah ouais. Ouais, enfin, oui. Moi, je trouve que la restauration et les études que j'ai faites, ça t'apprend beaucoup sur les gens, sur l'humain, sur comment recevoir les gens, comment les mettre bien. Je trouve que ce qui est incroyable avec la restauration, l'hôtellerie, c'est que c'est un métier où ton métier, c'est de mettre bien les gens, quoi. Donc, pour moi, c'est une compétence dans la vie qui est essentielle, quoi. Cette générosité, cette écoute, elle est essentielle dans les métiers de bouche et de restauration et d'hôtellerie. Donc, pour moi, je n'ai pas perdu du temps en faisant de la restauration parce que ça me fait gagner beaucoup de temps sur ma marque de mode. Parce que réunis, on est vraiment là-dedans. On reçoit les gens dans des pop-up, on les écoute, on prend leur feedback, on essaye de les mettre bien, de les mettre en confiance, etc. Et aujourd'hui, l'univers de la gastronomie, de l'hôtellerie et de la mode, c'est hyper connexe. Tu te rends bien compte que récemment, j'ai interviewé Clara Cornet des Galeries Lafayette, c'est la directrice artistique, creative director des Galeries Lafayette Champs-Élysées. Et typiquement, ils ont plein de restaurants, ils ont développé Oursin avec Jacquemus dans les Galeries Lafayette. Lors de la soirée d'inauguration, il y avait Leila Cook, c'est une fille qui est une artiste, une food artiste, tu vois, où elle fait des présentations, elle met en scène des buffets de façon incroyable. Et en fait, il y a une grosse connexion entre la gastronomie, la bouffe, l'hôtellerie et la mode. Donc, pour moi, c'est deux secteurs qui sont hyper proches, quoi.
Ouais, ça fait sens, ça va ensemble. Et t'es passé donc de l'univers de la restauration à l'hôtellerie à la mode.
Ouais.
T'as eu un wake-up call, t'as eu un déclencheur en particulier.
Wake-up call est une expression anglo-saxonne signifiant réveil téléphonique. Enfin, littéralement. Mais c'est plutôt un déclic ou une claque qu'on prend en pleine face et qui nous permet la remise en question. Même si beaucoup connaissent déjà ce terme, j'aimerais utiliser cet aparté pour lui donner un instant d'importance. Je dirais que c'est le petit truc en plus qui nous donne l'envie très forte de réagir, de changer ses habitudes, de changer son train-train qui sonne faux. Une envie puissante, une envie de réagir supérieure à la peur du changement qui nous maintient habituellement dans la passivité, dans l'attente, dans la résignation et dans la non-réalisation de nos rêves. Y a-t-il quelque chose de pire que de passer à côté de sa vie ? Allez, on y retourne.
Ouais, j'ai eu un gros wake-up call. C'est celui que je raconte toujours. Pendant longtemps, je voulais pas en parler, mais en même temps, je pense que ça peut aider d'en parler. Mais c'était une rupture amoureuse. C'est aussi simple que ça.
Je savais pas.
Ouais. C'est une rupture amoureuse. Je me suis séparé de ma copine de l'époque, mais ça faisait pas 3 ans qu'on était ensemble, ça faisait 13 ans qu'on était ensemble.
Oh wow.
Et on s'était construit ensemble, on avait grandi ensemble. Et je devais avoir 27 ans quand on s'est séparés, 27, 28 ans, je me suis pris un truc en pleine face. Parce qu'en fait, quand tu grandis avec une personne et que tu te dis, bon, c'est la femme de ma vie, etc., et que tu te construis avec cette croyance-là, et que tu te sépares assez jeune, parce que 28 ans, c'est quand même assez jeune, mais en même temps, 13 ans, c'est une vie. Tu te dis, c'est un monde qui s'effondre. Et quand ce monde s'effondre, toutes tes croyances et tout ton être, comment tu t'es construit, se casse la gueule, quoi. Et là, il faut reconstruire. Et tu te dis, si on s'aimait plus, c'est que d'une certaine manière, on n'était pas alignés chacun de notre côté sur ce qu'on devait, enfin sur notre vie, sur notre vie professionnelle, sur notre vie amoureuse, sur notre vie familiale, sur notre santé, etc. Et donc j'ai découvert en fait à ce moment-là le développement personnel, parce que il y a eu une grande phase quand même un peu compliquée de déprime, où tu te dis je suis perdu, quoi. En fait, ce que je fais dans ma vie professionnelle, ça me plaît pas, je suis pas aligné avec ça. J'essaye de ressortir avec des meufs, ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à draguer. Et en fait, si j'arrive pas à draguer, c'est que je suis pas aligné avec moi-même et ça se sent. Et donc, forcément, il faut tout reconstruire. Mmh. Et donc là, j'ai découvert le développement personnel. Et là, j'ai rencontré. Non, j'ai rencontré un. C'était une ancienne connaissance qui m'a mis le pied à l'étrier là-dessus. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à écouter des podcasts. C'est là ma rencontre avec le podcast.
C'était quoi ton premier. Comment dire, ta première porte d'entrée vers le développement personnel? C'était un livre?
C'était quoi? C'était. Ah, je ne sais plus. Peut-être un livre de Tony Robbins, non? Ça fait hyper américain, mais c'était sans doute un truc de Tony Robbins, ouais. Ou une, je sais pas, un talk de Tony Robbins, ça doit être un truc comme ça.
Okay.
Et ensuite, tu sais, je me suis inscrit à un mastermind. Tu vois ce que c'est un mastermind?
Non.
C'est ce gars-là, notamment en question, qui rassemble plusieurs personnes qui sont tous en galère.
Les grands talks, les grandes conférences. Ouais.
Tiens, vraiment des gens en galère, quoi. Et donc là, ce mastermind, c'était un peu plus en groupe réduit, on devait être une quinzaine de personnes, et c'était un programme sur peut-être, je sais pas, un mois et demi, deux mois, trois mois, où on se motivait, on se mettait des challenges, etc., pour sortir la tête de l'eau, quoi.
C'est trop bien.
C'est un peu sordide quand tu regardes avec le recul, et quand t'es dedans, mais en même temps, moi, ça m'a un peu sauvé la mise, quoi. Ça m'a permis de comprendre plein de choses, de faire ce travail sur moi-même. Et notamment, je me rappelle d'exercices qui étaient hyper cool, quoi. Exercices qui étaient d'une puissance incroyable. C'était écris-toi une lettre. Tu te mets dans la peau de Adrien, 90, 95, 100 ans, ou 120 ans, à l'orée de ta mort, quoi. Et tu t'écris une lettre au Adrien d'aujourd'hui. Et tu te dis, voilà, qu'est-ce que tu vas réaliser, qu'est-ce que tu vas faire, quel conseil tu lui donnes, etc. Et en fait, ça te confronte à ta propre mort. Et tu te dis, ah ouais, en fait, mec, je sais pas, ça fait une espèce de déclic dans ta petite tête. Et là, tu réalises que, ouais, en fait, il te reste une vie à vivre, que tu dois t'éclater, t'en as qu'une seule, et tu dois aller au maximum de tes, comment on appelle ça, de ton potentiel, et qu'il faut que tu te bouges pour réaliser tes rêves, etc. Et voilà. Et un autre exercice qui est vachement bien et qui m'a permis moi aussi de me recentrer et de comprendre ce que je voulais faire de ma vie, c'est tu prends une photo de toi enfant. mais moi, ça a vachement bien marché avec moi. Tu te prends une photo de toi enfant et puis tu te la mets en fond d'écran parce qu'il faut pas que tu perdes ça de tête, de vue. Et tu te regardes et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il voulait cet enfant Adrien quand il avait 4-5 ans ou 6 ans ou 7 ans? Qu'est-ce qu'il rêvait? De quoi il rêvait? Et ça, en fait, ça te reconnecte à ce que tu es vraiment, à ce que tu veux vraiment au fond de toi, au fond de tes tripes. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai redécouvert mon amour pour la mode, pour le design, pour la création, quoi.
Est-ce que tu te souviens d'un ou deux mots que toi, 90 ans, tu adressais à toi aujourd'hui? Tu voudrais nous partager?
Ben j'ai une lettre, hein. Je l'ai gardée cette lettre et je la relis de temps en temps. Mais qu'est-ce que je dis dans cette lettre? Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas lue, tu vois. J'ai un peu oublié, donc je vais prendre le temps de la relire. Mais je me dis... Non, Adrien, tu t'écris à la première personne, bien sûr, et tu te dis, non, bah, Adrien, tu vas avoir une vie extraordinaire, ça va te demander... Alors, c'était avec des mots un peu niais, mais un peu niaiseux, mais c'était du genre... non, tu vas vivre une vie incroyable, tu auras une femme incroyable, des beaux enfants, tu seras en pleine santé, ne te détourne pas de tes objectifs, bosse dur, enfin c'était des trucs très américains, tu vois, très à Tony Robbins.
Et donc la masterclass dont tu me parlais, c'était, ouais, Tony Robbins qui l'organisait?
Non, c'était pas Tony Robbins, non. Moi j'avais pas les moyens d'aller chez Tony Robbins parce que ça coûte assez cher, Tony Robbins.
Ah, okay.
Mais c'était Alexis Santin, qui est coach maintenant. Je crois qu'il est plutôt coach sportif, il accompagne des athlètes. Et donc lui, il m'a... Non, c'était un truc, ça coûtait pas excessivement cher. C'est un investissement quand même. Mais en même temps, je crois que dans le développement personnel, il faut quand même un petit peu investir pour pouvoir s'investir humainement. Mmh.
Pourquoi la mode?
Pourquoi la mode? La mode parce que... pour moi, la mode, ce que je kiffe avec la mode, c'est que ça réunit tout ce que j'aime dans la vie, en fait. Parce que c'est très complet comme métier. Il faut que tu sois... il faut que tu aies une vision artistique. Il faut que... Ce que j'aime dans la mode, c'est que voilà, tu crées, tu fais de la sculpture, du vêtement. Enfin, tu dessines, tu crées un vêtement, un objet. Et ça, c'est, ça, moi, ça me raccroche vachement à mon enfance et mon amour du dessin, de la pâte à sel, etc. Ce que j'aime dans la mode, c'est qu'il faut que tu crées de l'image, donc de la photo, de la vidéo. Il faut que tu sois bon dans le marketing, dans la communication. Il faut que tu sois bon dans même comment t'exprimer, tu vois. Moi, comme je représente un petit peu la marque réunie aujourd'hui, tu vois, ça me pousse à prendre la parole, à répondre à tes questions dans un podcast. Et c'était pas... Moi, je suis quelqu'un de très introverti au départ. Et ça me pousse à m'améliorer. Tu vois, je suis toujours dans cet esprit de développement personnel. Ce que j'aime aussi, c'est... Enfin, ce qui est extraordinaire dans la mode, c'est que c'est un business aussi, c'est du commerce. Donc c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que, et que Jean Twitou a dit, hein, c'est pas de moi, c'est que la mode est, enfin la mode, c'est à la croisée de l'art et du commerce. Et si t'es trop dans l'art, c'est que t'es un peu au-dessus de tout, et quand t'es trop dans le commerce, t'es un peu un marchand du temple. Et c'est trouver cet équilibre qui est hyper difficile finalement à trouver. Je pense qu'APC le fait très bien, ou Acne Studio le fait très bien. Donc ce que j'aime surtout dans la mode, c'est ça, c'est que c'est du commerce aussi, et que t'as une relation au client, que t'es un commerçant, et moi je suis un peu tout ça, quoi, finalement. Donc c'est hyper hyper complet comme industrie, je trouve. Et puis c'est quand même une industrie qui a du sens, dans le sens où, enfin, c'est une industrie qui, ça peut être un média, une marque, ça peut être un média aussi, et tu peux faire bouger les lignes de ton industrie. On voit bien que, tu vois, les avancées, enfin, je sais pas, que je m'exprime très mal, tu couperas ça.
Je garderai tout.
Tu garderas tout.
Que quand c'est bon.
Non, mais grosso modo, que voilà, ce que je voulais dire, c'était surtout que la mode, pourquoi la mode, c'est que ça réunit tout ce que j'aime dans la vie, quoi.
Et c'est des découvertes que t'as fait beaucoup plus tôt, enfin, le côté commerçant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui date.
Ouais, bah, je pense que c'est très familial, ça. Mon père est très commerçant.
Ok. C'est là que ça vient.
Ouais.
Ok. T'as repris tes études à 29 ans. J'imagine que ça devait être un peu bizarre en tant qu'étudiant de revenir sur les bancs de l'école. Et derrière, t'étais donc chez Balenciaga et Louis Vuitton. Quelles ont été tes plus grosses frustrations ou découvertes dans cette première rencontre avec l'univers de la mode?
C'est que c'est en fait un... Enfin, la plus grande frustration, c'est que c'était un 9-to-5 job, tu vois. C'est que, en fait, en plus, c'est des boîtes qui sont hyper corporate, mine de rien, et je trouvais que c'était hyper enfermant, finalement, comme ces grandes maisons pour un designer. C'est que, tu vois, c'est vraiment un job de bureau, et je me retrouvais... exactement comme avant chez Prêt-à-Manger, quoi. Où tu bosses de 9h à 18-19h, t'es devant ton ordinateur toute la journée, etc. Et ça, c'était la plus grande frustration. Après, c'était un kiff total, dans le sens où tu rentres... Enfin, moi, je vivais le rêve, tu vois. Quand j'ai commencé par un stage chez Louis Vuitton, tu rentres dans ce bâtiment, c'est juste ouf, quoi. Ça, je sais pas, il se passe un truc de dingue dans les tripes aussi. Tu te dis, ouais, il y a un an et demi, j'étais dans le sandwich. Et maintenant, je suis dans le sac à main. Et tu dis, waouh, je suis en train de vivre le rêve, quoi. Et quand j'ai eu mon deuxième stage, et puis même mon premier job chez Balenciaga, c'est pareil, c'était un kiff absolu. Mais voilà, si on se focalise sur les frustrations, c'était ça. Et puis après, c'est le fait que... Bon, on fait tout sauf de l'art, quoi. C'est-à-dire, c'est du business. C'est du gros business, quoi. C'est... On fait des quantités qui sont astronomiques, on lance beaucoup de protos, on fait beaucoup de collections, on prend pas le temps de vraiment pousser les produits jusqu'au bout, parce qu'il faut faire du produit. Et ça, pour moi, c'était un peu c'est un peu l'envers du décor, quoi. Mais c'est ce qui ressort beaucoup aujourd'hui chez tous les designers. Quand tu parles avec eux, ils ont tous marre, quoi. Ils sont tous frustrés de ça, de trop de collections et de toujours plus. On n'a pas le temps de pousser les idées jusqu'au bout. Les stylistes, les designers, c'est des artistes avant tout. Hein. Ils font des écoles d'art appliqué. Et c'est des gens qui aiment sincèrement le produit, l'art, et qui ont envie de pousser le truc au maximum. Et je trouve que dans ces maisons-là, t'as pas forcément le temps de pousser les choses aussi loin que tu le voudrais, quoi.
Mais est-ce qu'il faut pas justement créer massivement pour pouvoir trouver une, deux, trois, quatre, dix pièces qui vont
10
être
pépites,
finalement...
Ouais. Ouais. Mais oui, c'est une des méthodes que les gens utilisent. Mais moi, je trouve que c'est un peu du gâchis, quoi. Tu peux... Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des designers sur la place qui prennent le temps de réfléchir et de se focaliser. On prend l'opposé. Pour moi, ça serait Hermès. Hermès, j'ai l'impression que ce que j'ai entendu, c'est qu'ils sortent un produit quand il est vraiment prêt. Et ils sont prêts à faire 10, 15, 20 allers-retours avec leur atelier de prototypage. Je te parle du sac à main, par exemple. Donc, le fait de donner du temps au temps et de pas s'exciter, ça fait une maison comme Hermès, quoi. Et Hermès, tous les produits qui sortent, ils sont juste parfaits parce qu'ils ont tellement été réfléchis, refaits et refaits et refaits encore et encore, que derrière, tu as des produits qui sont extraordinaires. Après, en termes de performance économique, je crois qu'un groupe comme Hermès doit faire, je sais pas, 4, 5 milliards, 6 milliards, je dis peut-être une bêtise, et un groupe comme Louis Vuitton, ça en fait 15 ou 16, tu vois. Donc voilà, sauf que... Parce qu'on a besoin de faire autant d'argent.
Toi, comment tu procèdes ?
Sur Réuni ? Bah, l'idée de Réuni, c'est justement ça, c'est de revenir... sur une temporalité qui est beaucoup plus beaucoup moins accélérée, beaucoup moins rapide, et de prendre le temps de faire un produit avec notre communauté en plus, en prenant beaucoup d'input et beaucoup de feedback, sans perdre la touch réunie, hein. On veut quand même apporter notre pièce, apporter notre touch, mais de se dire ok, on sort un produit quand il est vraiment prêt, quoi, quand le design est juste parfait, quand on a trouvé la bonne matière qui en plus est plutôt le plus sustainable possible et qui va répondre aux critères de durabilité en lavage, etc., en durabilité dans le temps, quoi. Donc c'est prendre le temps et ne pas sortir un produit tant qu'il n'est pas nickel chrome, quoi. Mais ça, bah, tu vois, c'est un pari, quoi. Tu te dis le problème de pourquoi on a accéléré, pourquoi les rythmes sont accélérés dans la mode, c'est que plus tu produis, enfin plus tu proposes des collections et plus tu renouvelles ta gamme et plus tes vitrines se renouvellent, plus tu vends, c'est mécanique. C'est pour ça qu'on est dans un rythme effréné, hein. Donc dire on ralentit la cadence, on fait qu'un seul produit, on sort qu'un produit tous les deux mois ou tous les trois mois ou quand il est prêt, tu vois, c'est un peu contre-intuitif, quoi, hein. C'est même dangereux, tu vois. Tu te dis,
Pourtant ça fonctionne.
Ouais, pourtant ça fonctionne et que
ça commence à émerger, en tout cas.
Ça commence à émerger. Et je crois qu'il y a une prise de conscience dans la société sur revenir à... Enfin, se dire, on n'a pas besoin en fait de 36 000 vêtements, quoi. J'ai juste besoin d'un bon gros pull ou trois pulls, deux jeans, cinq t-shirts, c'est suffisant. Tant qu'ils sont beaux, bien faits et qui durent longtemps, ça suffit.
Et qu'on porte vraiment le plaisir à les porter.
Ouais, c'est ça. Et puis sortir de cette idée que... consommer, ça rend heureux. Je pense que c'est là le sujet, en fait, hein. C'est que cette surconsommation, c'est que les gens ils achètent parce qu'ils sont frustrés, parce que et qu'ils sont plus connectés eux-mêmes, justement.
Tu as lancé le podcast Entreprendre dans la mode pour décortiquer cet univers, et avec 120 épisodes aujourd'hui, un peu plus peut-être. 127 épisodes, qu'est-ce que tu as réussi à démystifier, à décortiquer, qui te sert aujourd'hui dans le lancement de ta marque ?
Bah déjà, j'ai démystifié tous les entrepreneurs, quoi. Parce que moi, une des raisons pour laquelle j'ai pas fait de la mode tout de suite, c'était que je me suis dit, c'est pas pour moi, en fait. Je suis un petit provincial, j'ai grandi à Oyonnax, dans l'Ain. Et faire de la mode, pour moi, c'était inaccessible. Je m'étais pas autorisé à le faire. Et le fait de rencontrer ces gens-là, ça m'a permis de les démystifier, de me rendre bien compte, même si je le savais au fond de moi, que c'était que des êtres humains, quoi, et qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs forces, qui ont leurs failles, qui sont pris pas mal de gadins avant de réussir. Et donc, pour moi, c'était le principal apprentissage, en fait. C'était de rencontrer en vrai les gens. Enfin, je sais pas, ça vous est tous arrivé, à mon avis, et ça nous est tous arrivé, de rencontrer quelqu'un en vrai, de l'avoir idolâtré, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, mais Jean-Michel, il est tout petit, ou tu vois, elle est pas si jolie que ça. En fait, cette nana, elle est en photo, elle est juste incroyable, mais en vrai, bon, elle est un peu boring, quoi, tu vois. Et le fait de rencontrer ces entrepreneurs en vrai et de voir qu'ils avaient des parcours qui n'étaient pas si simples que ça, ça permet de les démystifier et de t'autoriser, toi, à te dire, ok, bah en fait, moi aussi, je peux, quoi, parce que
j'ai le droit d'être humain, en fait.
J'ai le droit d'être humain et j'ai le droit de lancer ma marque et j'ai le droit de réussir aussi, tu vois. Et donc, pour moi, ça, c'était le principal apprentissage. Ta question, c'est ça, hein, c'est sur l'apprentissage.
Ouais, sur l'apprentissage et sur ce que tu as réussi à démystifier. Tu parlais beaucoup de préjugés dans la mode et moi qui ne suis pas du tout de cet univers-là, j'en ai un paquet. Mmh. Et je me demande ce que tu as réussi à remettre dans le bon sens, replacer au bon endroit.
Bah, je pense que le cliché qu'on a tous sur la mode, c'est que c'est un monde de gens qui se la racontent, qui sont au-dessus de tout, qui pensent qu'à boire du champagne et à faire la teuf, et qui sont tous guédros, et etc. Et en fait, pas du tout. Non, j'ai rencontré des gens qui étaient déjà très gentils, très, très simples, qui sont des passionnés, des gros bosseurs. Et donc, on était assez loin quand même des clichés que moi j'avais en tête, tu vois. Mmh. Qu'est-ce que j'ai démystifié d'autre ? Je pense que c'est ces deux trucs-là, quoi.
T'as une interview favorite dans ton podcast ?
Je commence à en avoir plusieurs, des interviews favorites, mais... je sais pas, moi j'adore le 13e épisode avec Marie-France Cohen. Là j'ai eu un déclic aussi assez important sur j'ai eu une vraie prise de conscience sur la dimension sustainability, sens, etc. Parce que Marie-France Cohen, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est la fondatrice de Bon Point, de Merci et de Démodé. Et en fait, elle, quand je l'ai interviewée, bon, déjà pour moi c'était vraiment un graal extraordinaire, hein, 13e épisode. C'est quelqu'un qui a réussi beaucoup de choses dans l'industrie de la mode, qui est très respecté, qui est une visionnaire, etc. Et c'est quelqu'un qui a 70 ans maintenant. Et quand je l'ai rencontré, déjà pour avoir l'interview, c'était la croix et la bannière. Et quand je l'ai reçu, enfin quand j'ai réussi à choper l'interview et à rentrer chez elle et à faire l'interview, la première chose qu'elle me dit, c'est: Adrien, bon, je ne le fais pas de gaieté de cœur, cette interview, mais je le fais parce que je me sens... j'ai la responsabilité, comme j'ai réussi un petit peu 2-3 trucs dans la mode, de transmettre et de transmettre ce que j'ai appris. Et elle me dit, par contre, j'ai que 30 minutes. Hein, et tu vois, donc moi, j'étais jeune intervieweur. J'étais hyper impressionné, hyper flippé. J'étais dans son appartement, enfin son appartement, son comment on appelle ça, un pavillon particulier.
Un hôtel particulier.
Dans son hôtel particulier, hyper impressionnant, etc. Puis cette dame charismatique. Et là, elle me dit, non mais vous, jeunes gens, il ne faut pas entreprendre dans la mode, il faut vraiment que vous sauviez notre monde, notre planète. Enfin, il ne faut pas tout sauf produire des vêtements de merde, en plus, ça ne sert à rien, quoi. Donc elle a été hyper vindicative, et moi je suis sorti de cette interview où j'étais éclaté, quoi. J'étais un peu dégoûté parce que je venais de changer de vie, en fait.
Merde, mon rêve.
Ouais, mon rêve, c'est cool, maintenant, quoi. Ouais. Mais ce que j'ai retenu de cette interview, c'est que si je faisais quelque chose, il fallait que ça soit porteur de sens et que ça fasse... bouger les lignes de notre industrie, de notre monde, à notre humble mesure. Mais je pense que ça, c'est quand même un de mes interviews préférés parce que j'ai eu une vraie prise de conscience. Après, j'adore l'interview avec Ramdan Touami de Office Universel Bully, qui est un mec incroyable. J'ai adoré aussi interviewer récemment Frédéric Bius, où pendant 2h30, il raconte toute sa life. Et c'est trop cool parce que c'est quelqu'un qui est assez important dans l'industrie de la mode. Aujourd'hui, c'est un fonds d'investissement. C'est lui qui est à l'origine de l'explosion de Sandro, Maje, Claudie Pierlot. Donc, c'est une grosse réussite dans l'industrie. Et il a fait un épisode qui était 2h30 de folie, quoi. Ça, j'ai adoré. Et puis... En fait, je les ai tous adorés, je vais te dire. Non, mais en fait, ce que j'explique souvent, c'est que faire ces interviews, moi, je suis comme un gamin à chaque fois. C'est 30 ans de pas 30 ans, mais c'est genre 10 ans de frustration qui explose à chaque fois que je rencontre mes héros d'une certaine manière, tu vois. Tu vois, en ce moment, j'interview des gens mais que je pensais complètement inaccessibles il y a encore 3 ans, tu vois. Et tu vois, cette semaine, là, j'interviewe par exemple les fondatrices de Vestiaire Collective pour leurs 10 ans. J'interviewe des gens de malade mental, quoi, que j'aurais jamais imaginé croiser un jour ou même avoir la chance de discuter avec eux pendant une heure, deux heures. Donc c'est, je kiffe quoi, à chaque fois.
Tu m'étonnes. Et tu t'aides aussi un paquet de personnes qui souhaitent un peu suivre ton parcours, quoi. Suivre ton parcours et lancer leur propre projet, quoi.
Exactement.
Que ce soit dans la mode ou pas, en fait.
Ouais.
C'est vraiment ça que je trouve inspirant. En somme, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé par entreprendre, puis ensuite ont lancé leur podcast. Toi, tu as un peu fait l'inverse. Ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est tout ce que ça t'a permis de récupérer comme apprentissage, comme données, comme rencontres, network, etc. Et aujourd'hui, là, décembre 2019, ça paraît totalement logique et ça paraît être une suite évidente. Le wake-up call, je reprends mes études, je fais 2-3 stages, j'apprends dans les grandes maisons, je lance mon podcast, j'apprends de personnes, et aujourd'hui, je lance ma marque Réunie. Mais quand tu as eu ton wake-up call, tu savais que ça allait se passer comme ça ?
Non, pas du tout. Ah, mais tu mets le doigt sur un truc qui est essentiel pour moi, qui est hyper important et qu'il faut absolument démystifier, c'est la voie royale. Moi, pendant longtemps, je me disais... Et j'ai toujours ce complexe d'imposteur d'ailleurs, de me dire mais what the fuck, le mec il rentre par l'industrie de la mode par un podcast, quoi, c'est n'importe quoi, personne n'a jamais fait ça, et donc c'est pas normal que ça se fasse. Et moi pendant longtemps je me disais mais non, mais je peux pas rentrer dans l'industrie par cette porte là, c'est un hold up, quoi, tu vois. Mais en même temps je me suis fait à l'idée de dire ok, bah en fait il y a pas de voie royale, il y en a qui font pas d'études de mode et qui réussissent très bien. Je pense à Simon Porte-Jacquemus. Y a plein de gens dans la mode qui n'ont pas fait d'études de mode, tu vois. Donc moi, je suis quand même retourné à l'école de mode parce que pour moi, j'étais dans cette idée de voie royale, de dire ok, pour entrer dans l'industrie de la mode, il faut faire une école de mode. Un truc que je dis pas, c'est que ouais, c'est que quand j'ai fait mon développement personnel, etc. pendant toutes ces années-là, j'ai analysé le parcours de tout le monde.
Le parcours de tout le monde.
Bah, parce que mon rêve, c'était de devenir soit DA, soit entreprendre dans la mode. Et donc j'ai fait un tableau Excel.
Génial. On a attention s'il vous plaît. On a vraiment ce qui se passe derrière les rideaux.
Ah, c'est ça. Et donc j'ai fait un tableau Excel et j'ai regardé tous les gens qui avaient alors tous ceux qui avaient gagné les concours dans l'industrie de la mode, c'est notamment hier Festival ou le LV Match Price. J'ai pris tous les parcours des DA dans les maisons actuellement et j'ai vraiment analysé. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Donc études, les études, le parcours, les stages, etc. Pour essayer de répliquer leur recette, quoi. Dans le développement personnel, c'est ce qu'on te dit de faire en général. C'est que tu prends ton mentor, quoi, quelqu'un que tu rêves de devenir, et tu reproduis son chemin. Et donc le podcast, c'était pas dans les... Personne n'avait fait ça, tu vois.
Ah oui, tu m'étonnes.
Donc quand j'ai fait le podcast, j'ai suivi les conseils d'un mec que j'avais rencontré dans un Blablacar qui me disait Adrien, alors c'était donc à l'époque j'avais 29 ans, j'étais en école de mode, et il me disait mais Adrien, c'est trop bien ce que tu fais, par contre n'attends pas d'avoir besoin d'un stage pour rencontrer les gens. Il m'a vraiment dit bois des cafés le plus tôt possible avec un maximum de gens dans l'industrie parce qu'ils auront toujours un a priori hyper positif sur toi, dans la mesure où tu vas t'intéresser à eux et que tu n'auras rien à leur demander. Tu es juste un mec qui est en train de te reconvertir dans la mode, mais tu ne cherches pas encore de stage. Mais par contre, tu as envie de comprendre leur parcours, comment ils ont réussi, etc. Et moi, j'ai commencé... En fait, le podcast, il vient de là au départ. Au départ, j'ai sollicité des cafés, mais je me suis rendu compte que solliciter des cafés avec des gens qui pèsent vraiment dans le game, c'était assez compliqué parce que je n'avais pas grand-chose à leur offrir en retour. Et comme j'écoutais des podcasts et que je ne trouvais rien sur le monde du podcast, j'ai décidé de créer un podcast sur l'industrie qui s'appellerait Entreprendre dans la mode, quoi. Et tout ça pour dire que oui, c'était tout sauf intuitif, ce parcours-là.
T'as avancé en marchant, en fait.
Ouais,
c'est
ça.
Après l'autre.
Ouais. Et puis surtout, il faut être... un truc que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il faut être à l'écoute de ton... Enfin, des signaux, quoi. Dis, ok, en fait... le podcast ça marche, donc vas-y à fond, quoi. Et ne te borne pas à rester dans une maison si en plus t'es pas hyper heureux.
Dans l'introduction, je parle de toi comme un entrepreneur de ta vie. Je pense que c'est quelque chose qui te définit assez bien, en tout cas vu d'ici, vu de mes yeux. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord ?
Bah, j'en suis d'accord. Enfin, je suis d'accord jusqu'à. Enfin, à partir de 28 ans finalement. Mais avant, j'ai subi ma vie, quoi. Enfin, j'ai subi ma vie. Ouais, j'ai subi ma vie.
Et maintenant, maintenant que tu es le nouveau Adrien, être entrepreneur de sa vie, c'est quoi ?
Bah, c'est prendre ses responsabilités, c'est prendre son destin en main, c'est aller chercher ce dont tu as envie, quoi. C'est ça, être entrepreneur de sa vie. C'est, enfin, moi, je le vois comme ça, et c'est d'être, de rester à l'écoute, de pas subir, en fait. Mais tu sais, moi, je trouve qu'on retombe très vite dans les travers de subir sa vie. Tu peux vite être dépassé par les événements. Tu peux vite être... tu vois, par exemple, entreprendre dans la mode, pour moi, aujourd'hui, je me posais des vraies questions sur le fait que ça me défocalise énormément de mon business, de Réuni. Et il faut prendre des décisions, tu vois, et c'est toujours pareil, c'est que choisir, c'est renoncer. Ça, c'est la grande phrase pourrie.
C'est terrible, ça.
Mais c'est vrai, tu vois. Aujourd'hui, je me pose vraiment cette question. Est-ce que je continue le podcast ? Est-ce que je ralentis la cadence ? Parce que comme je suis un boulimique de travail et je suis un boulimique de rencontrer des gens et que je suis à fond dans le FOMO, fear of missing out, la peur de rater une opportunité, j'ai tendance à prendre. Je suis un yes man, tu vois, je dis oui à tout. Et au moment, ça marche plus, quoi. Quand t'es un yes man, que tu fais 4 interviews par semaine et que t'es en plus, t'es en plein lancement de produits et que tu dois produire et gérer la logistique, etc., et que tu fais ça, enfin, que tu fais tout ça avec tes petits bras, même si t'as un peu de coup de main à gauche à droite, mec, clairement, ça peut pas marcher, quoi. Peut-être t'as que 24 heures dans une journée, et puis il faut laisser du temps au temps, il faut prendre le temps d'aller se balader, d'aller voir des expos, de laisser retomber la pression pour rester créatif. Et tu vois, après ce lancement de produits, après ce lancement de réunis, je me dis qu'il va falloir peut-être qu'on se calme, qu'on se pose sur les objectifs 2020 et qu'on fasse des choix sur ça. Et donc je pense que c'est ça, être entrepreneur de sa vie, c'est de se rendre compte que la machine, elle surchauffe et que là, on est en train de subir plus qu'autre chose et qu'il faut prendre des décisions et arriver à couper et à prendre des décisions, en fait. C'est ça, c'est choisir, c'est ça être entrepreneur de sa vie, c'est vraiment choisir, quoi.
Tes décisions, est-ce que tu les prends en accord avec tes valeurs?
Oui, j'espère. Ouais, carrément.
T'arriverais à nous les citer ?
Mes valeurs ?
Mm-hmm.
Je les ai notées à une époque, hein. Mais là, je sais, tu vois, c'est pas top of mind, quoi. Mais moi, mes valeurs, c'est la. Je pense que c'est mes valeurs familiales, c'est la générosité, c'est la gentillesse, la bienveillance, c'est l'amour propre, c'est. Ouais, je crois que c'est la générosité et la bienveillance, finalement. Et envers moi-même, tu vois, je me dis toujours ça, c'est faut être généreux avec soi-même et bienveillant envers soi-même. Donc, je suis loin d'être parfait et j'en ai bien conscience qu'il faut que je progresse, etc. Mais ouais, mes décisions, je les prends au travers de ce filtre-là, quoi. Mais tout en étant hyper ambitieux aussi. Je trouve que l'ambition, pour moi, c'est pas un gros mot. Et que... Ouais, moi j'ai envie de réaliser des grandes choses, quoi. Donc les décisions, elles se prennent aussi au travers de ce filtre-là.
Et ces valeurs que tu nous as citées, en tout cas cet univers, est-ce que c'est le même qui s'aligne sur l'univers Réuni ?
Ouais. Ouais, carrément. Moi je crois que c'était marrant parce que je t'expliquais hier soir, on faisait un workshop. Avec des femmes et des hommes de notre communauté, et on leur a demandé c'était quoi, qu'est-ce que c'était pour vous Réuni, et ce qui est ressorti, c'était ça, c'était la générosité, c'était la bienveillance, c'était la transparence, alors ils n'ont pas cité l'ambition, mais je crois que c'est ça, en fait. En fait, quand tu fais quelque chose, le plus simple, c'est faut que ça soit vrai, et il faut que ça soit en accord avec toi-même, il faut que ça soit toi, quoi. tu mets de toi, plus t'as de chances d'être juste dans ce que tu fais. Donc, pour moi, réuni, ouais, c'est vraiment moi, quoi.
La question qui anime ce podcast. Adrien, pourquoi tu fais ce que tu fais ?
Pourquoi je fais ce que je fais ? Je fais ce que je fais parce que je crois que c'est là-dedans que je suis le... Enfin, je crois que je suis fait pour ça, en fait. Non, mais en fait, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire de ma vie. Ça m'a pris vachement de temps. Mais maintenant que j'ai trouvé, je le fais à fond. Et si je fais ça, c'est pour m'amuser, quoi. C'est pour me faire kiffer, en fait. Parce que je trouve que dans la vie... faire des trucs comme ça, enfin en tout cas faire des podcasts, rencontrer des gens, les faire parler, les mettre en valeur, ça m'excite de ouf. Enfin, je trouve ça hyper, hyper cool. J'ai toujours adoré écouter. Je suis un introverti, hein. Donc les introvertis, ils ont une capacité d'écoute qui est assez puissante et qui permet d'entendre les signaux faibles et de comprendre beaucoup de choses. Donc je fais du podcast parce que je suis un ancien introverti. Je suis toujours un peu introverti, mais je suis plutôt un ancien introverti. On va pas se mentir, hein, je suis quand même un peu plus extraverti maintenant.
J'avais entendu dans une de mes explorations en développement personnel, parce que moi aussi je me suis retrouvée dans ce type de réunion, qu'on comparait l'introverti et l'extraverti avec deux choses. L'introverti, il commence sa journée avec une bourse remplie, et au fil de sa journée, au fil de ses interactions, il va distribuer des petites pièces, des éléments qui constituent sa bourse. Je ne sais pas pourquoi je dis des pièces, mais on va dire que c'est des billes. J'aime bien les billes. Et donc, il distribue ses billes au fil de la journée, au fil des interactions, et en fonction de si les interactions sont très énergivores ou non, il va plus ou moins consommer. À la fin de la journée, a priori, il est éclaté. L'extraverti, lui, il se nourrit des nouvelles interactions. Et ça lui coûte peu parce que justement cette interaction vraiment le nourrit. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose, une définition qui semble te correspondre aussi ou pas ?
Ouais, complètement, moi je suis complètement là-dedans. Et je suis très mal à l'aise quand il y a beaucoup de monde autour de moi. Tu vois, les événements, les events, etc., je déteste ça. Je déteste être plus de 3 autour d'une table ou 4 autour d'une table. Je suis incapable de réagir en société quand il y a plus de 4 personnes en fait. Et donc c'est pour ça que souvent je fuis, je pars ou je ne vais pas aux événements parce que je me sens hyper mal à l'aise, je sais pas quoi faire, je sais pas comment me positionner, etc. Alors que je suis mais bien meilleur sur du one-to-one, sur mettre les gens en valeur, les faire parler, etc. quoi. Et que c'est parce que je suis dans mon élément en fait. Et donc tu vois, je fais ce que je fais aujourd'hui, je fais du podcast parce que j'adore ça, j'adore rencontrer des gens, j'adore me nourrir des gens et de les mettre en valeur et de leur donner un petit peu. Et je fais de la mode et du commerce ou de l'entrepreneuriat parce que j'adore le commerce et j'adore la mode et que voilà. C'était ça la question.
Pourquoi tu fais ce que tu fais ? C'était ça la question.
Ouais, parce que je kiffe ce que je fais.
Est-ce que tu as un genre de routine, des petites choses qui constituent ton quotidien de manière quotidienne ou hebdomadaire qui te servent à rester ancré, à rester aligné ? Pour justement avoir tes valeurs qui se retrouvent chez toi, dans tes différents projets, sur ton podcast ou même dans les réunions de réunis.
J'ai des morning routines. Non, le matin, je me lève assez tôt, je médite, je fais des pompes et des abdos, je prends ma douche. Mais la méditation, pour moi, c'est hyper important et c'est assez central dans tout ce que je fais, enfin dans ce que je fais, en tout cas dans mon quotidien, quoi. Il n'y a pas un jour où je ne médite pas et ça me permet vraiment de faire redescendre justement la pression et les pensées positives ou négatives. Donc ça, c'est puissant. Et
c'est une méditation. C'est quelle forme de méditation ?
C'est la méditation védique. Transcendantale. C'est deux branches similaires, quoi. La transcendantale est un peu plus décriée. Mais c'est, la transcendantale, en fait, c'était la méditation qui était pratiquée par les Beatles. Ou même David Lynch, il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette méditation. Et la méditation védique, c'est la même chose en fait. T'as un mantra que tu récites, t'as un professeur qui te donne un mantra pendant une petite séance, une petite séance quoi, avec de l'encens et tout, c'est assez rigolo. Et en fait, ce mantra, tu le récites pendant 20 minutes le matin, tu fermes les yeux et tu récites ton mantra. Et en fait, ça te permet de te focaliser sur ton mantra et il se passe quelque chose au niveau de ton système nerveux qui vraiment te débranche et c'est assez puissant, quoi. Et ça permet vraiment de te réénergiser, de te ressourcer. Donc le matin, c'est puissant, mais surtout en fin de journée, c'est encore plus puissant parce que ça te permet de... Après une journée de travail où tu es sur l'ordinateur toute la journée, tu as eu des calls, tu as eu une pression, etc., de faire redescendre la pression et c'est hyper puissant. Mais sinon, en termes de routine, non, mais j'essaye, hein, je t'avoue que c'est pour ça que je te dis que j'ai un peu trop fait chauffer la machine ces dernières semaines parce que j'étais sur trop de front en même temps et que tu prends des raccourcis et tu coupes la méditation, tu coupes ton point hebdomadaire sur l'organisation de ta semaine, tu réponds tous tes emails, tes emails, etc. Et donc voilà, je suis dans une période où il faut que je réaplanisse tout ça, que je restructure. Et je pense que cette structure de travailler par bloc, de regarder tes emails trois fois par jour maximum, de enlever toutes tes applications de ton mobile, de bien méditer deux fois par jour, de bien manger, de manger vegan, de faire du sport tous les jours ou tous les deux jours, etc. Ça t'ancre de ouf. Je trouve qu'on est des animaux de routine, quoi, si t'es, et des êtres d'habitude. C'est pour ça que je fais un podcast par semaine. Sinon, les gens t'oublient.
C'est sport, un podcast par semaine. Merci pour ces partages. On arrive sur les questions de la fin de l'interview. Mmh. Et la première de ces questions est... Est-ce que tu as un motto, quelque chose qui t'anime, qui t'aide à te lever le matin?
J'ai ce qui me vient en tête, c'est just fucking do it. Ouais, c'était un gars avec qui je bossais qui s'appelait Bertin quand j'étais chez Prêt à Manger. Il était un petit peu de la vieille école et c'était un peu le patron des opérations et c'est vrai qu'à un moment il faut se mettre des coups de pied au cul, quoi, tu vois. Il est just fucking do it. Hein, il y a plein de trucs que tu repousses. T'as pas envie de te lever, bah, just fucking do it, parce que sinon ça va pas avancer et que tu vas pas réaliser ton rêve, quoi. Donc il disait pas just fucking do it, il disait just GFDY. C'était sa signature.
Tout simplement.
Ouais.
Ok. Une personne inspirante?
J'ai envie de te dire, franchement, le mec qui m'impressionne le plus en ce moment, c'est vraiment Ramdan Touami. Hein. Je l'ai recroisé au puce il y a 15 jours, ça me fait marrer. Et la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais dans sa boutique dans le Marais. Tu sais, il a un café, c'est une boutique Bully, Office Universel Bully d'un côté, et de l'autre côté, c'est un café. Et je me dis, putain, lui, il éclate le game, quoi. Il est vraiment au-dessus de tout. C'est hallucinant. Quand tu rentres dans ces boutiques, t'as l'impression qu'elles ont été là depuis toujours. Il y a un sens du détail de malade mental. Les produits, ils sont trop bien. Tout est bien, en fait. Tu vois, ses salariés, en tout cas ses vendeuses, elles sont parfaites. Le mec qui est derrière le bar, il est parfait. Il te tape la discute, etc. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a poussé le sens du détail dans notre industrie. Alors lui, il est plus sur la cosmétique et le retail, mais c'est un truc de malade mental, quoi. Et lui, il m'inspire vraiment. Et c'est marrant parce que je crois que c'est le mec qui m'inspire le plus. Et dans les gens que j'ai interviewés, c'est vraiment celui qui m'impressionne et qui m'inspire le plus. Il a un côté un peu grande gueule et c'est vraiment le côté qui est chiant chez lui, c'est que il a un côté je sais tout, monsieur je sais tout, tout ce que je fais c'est parfait, tout ce que font les autres c'est un peu de la merde. Mais au-delà de ça, quand tu dépasses ça, il a pété le game, quoi. C'est impressionnant.
Aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui cherche à aligner ce qu'il est, ce en quoi il croit, avec ce qu'il fait au quotidien, il ou elle d'ailleurs?
Moi, je pense qu'il faut... C'était mon exemple du début, là, sur regarder régulièrement qui on était quand on avait 4-5 ans, 4-5-6 ans, l'enfant qu'on était. Parce que je trouve que quand t'es un enfant, c'est ça qui est génial, c'est que t'as aucun filtre, t'es pas encore modelé intellectuellement et t'es vraiment brut de décoffrage, quoi. T'es un diamant qui n'a pas encore été taillé et qui n'a pas été abîmé par la vie, finalement. Ou mis dans une boîte, ou mis dans un rail. Et le fait de se reconnecter régulièrement à une photo de toi enfant, je trouve que ça te permet vraiment de rester complètement aligné. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il était, en quoi il croyait. et le faire régulièrement, alors peut-être pas une fois par semaine, mais y revenir de temps en temps, je trouve que c'est assez fort, quoi.
Deux vérités et un mensonge, Adrien.
Ah oui, deux vérités et un mensonge. Il faut que je dise après, c'est quoi le mensonge, c'est quoi la vérité ? Ah non, il faut que les gens
ne
trouvent.
Pas exactement, ouais. les gens trouveront par eux-mêmes. Ouais. Ou ne trouveront pas, d'ailleurs.
Ouais, ils ne trouveront pas. Non, deux vérités et un mensonge, c'est... Il faut que je te le dise comme ça, frontal, en mode je suis persuadé.
T'es persuadé de ton mensonge, ouais. Tout à
alors,
fait.
Alors, je me suis acheté une Jaguar à 20 ans pour 1 000 $. Ma fiancée a 21 ans et j'ai tatoué sur mon bras droit l'amour et la violence de Sébastien Tellier. C'est un titre de chanson de Sébastien Tellier.
Ok, super. À présent, j'aimerais te présenter Ashanti. Cette petite poupée, c'est une baguette magique. C'est la baguette magique du podcast Insensé. Et avec elle, tu vas pouvoir faire un vœu. Tu vas nous partager sur le podcast quelque chose que tu aimerais changer dans le monde. Je te la prête. Elle est symbole de fertilité au Ghana. Et chez nous, ici, chez Insensé, elle est symbole de fertilité des bonnes idées. Des idées qui ont du sens.
C'est hyper canon. Hein. Elle est belle, cette
poupée. Elle est belle,
hein. J'adore. Je repartirai avec. C'est hyper bateau, non, mais je trouve que ça serait bien qu'on soit dans un monde un peu plus généreux. C'est bien.
La voix montait, donc j'attendais la suite, mais on est bon.
Non, c'est dans un monde un peu plus généreux et plus bienveillant, pour le coup, envers les autres et envers soi-même. Je pense que si les gens étaient un peu plus bienveillants envers les autres et envers eux-mêmes, on serait dans un bien meilleur monde. C'est hyper naïf, hein, ce que je dis. Mais
non.
En réalité, je crois que...
Je trouve ça
vraiment
puissant, moi. Merci beaucoup, Adrien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Bah, beaucoup de chance, beaucoup d'amour et la santé. Et je pense que si j'ai ça, je serais déjà très heureux, quoi.
Eh bien, c'est ce que je te souhaite. Si on souhaite rentrer en contact avec toi, quel est le meilleur moyen ?
Par email, par email, non, c'est que si vous m'envoyez un email à adrien@reuni.co, sinon sur Instagram, sur Entreprendre dans la mode et sur reuni.co, vous pouvez envoyer un petit MP, je réponds, et puis sur LinkedIn aussi, j'essaye de répondre à tout le monde. Ce que je dis toujours aussi, c'est que j'essaie de répondre à tout le monde, mais parfois, il m'arrive, quand je suis dans le jus, de voir un message et de me dire, je vais y répondre plus tard, et puis t'oublies, quoi.
Oups.
Donc, n'hésitez pas à relancer. Je crois que c'est pas parce que je réponds pas que je l'ai pas vu ou que je vous ai oublié, que je peux pas vous répondre, mais c'est que souvent, on zappe, quoi.
Parfois, ça passe à la trappe.
Ouais, exactement.
Adrien, une dernière question avant de te quitter. Y a-t-il quelqu'un que tu as en tête qui pourrait passer sur le podcast Insensé?
Moi, j'aimerais bien entendre sur Insensé Sébastien Kopp, c'est de Veja, qui a monté cette marque Veja, qui a cofondé cette marque Veja. Et c'est quelqu'un qui souffre pas trop sur lui-même. Dans les podcasts que j'ai pu entendre, il parle toujours de beaucoup de sustainability, etc., de business. Mais j'aimerais bien comprendre un peu plus d'où vient, qui il est au fond de lui, pour comprendre comment il a réussi à quelles sont les valeurs derrière ce mec-là, pour comprendre comment il a réussi à monter un business comme ça, en sachant que Veja, ça marche depuis pas très longtemps, tu vois. Il a bouffé du pain noir pendant très 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 longtemps. Et cette persévérance, cette croyance en ce qu'il faisait, d'où il la sort, quoi.
Ok, intéressant. Affaire à suivre. Merci infiniment, Adrien.
Bah, merci pour ton accueil.
Et on te souhaite plein de générosité, plein d'amour et plein de bonnes choses pour réunir et entreprendre dans la mode.
Merci. Salut.
Merci infiniment à Adrien. On lui souhaite beaucoup de succès avec Réuni. Je vous invite à tenter dès aujourd'hui les exercices de développement personnel recommandés par Adrien. Je me suis prise au jeu de l'exercice qui consiste à se mettre dans la peau de moi à 90 ans pour m'adresser une lettre à moi aujourd'hui. L'exercice est hyper enrichissant, car on se projette dans une certaine forme de sagesse, on parcourt sa propre vie avec les lunettes de nostalgie et de fierté du chemin parcouru. Pour celles et ceux qui ont déjà entendu parler de la loi de l'attraction, je suis convaincue que cet exercice le nourrit à pleine balle. Vous m'en direz des nouvelles. N'oubliez pas, si le sens est important pour vous, notez 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça m'aide énormément. Je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et pour ceux qui aiment aussi le visuel, retrouvez-moi sur Instagram, sur mon compte bien perché, @insensé. Insensé. Comprenez bien le sens, qu'il soit propre, sale ou figuré. Sans aller dans mon sens, non, ne me brossez pas dans le sens du poil. Faites appel à vos 5 sens. Mettez-vous sans dessus-dessous, car non, ce n'est pas à sens unique, mais bien à double sens.
What?
Mais ça n'a pas de sens!